Mémoire à Véronèse, c'est tous les 15 jours sur CFM Rhodes, un programme présenté par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent Besombe, président du comité Rhodes du souvenir français. Alors il y a 15 jours, Vincent, on avait débuté une balade ruthénoise sur les lieux de l'occupation, de la collaboration et de la libération. On avait visité avec toi 12 lieux de Rhodes.
Et oui.
Et je me rappelle qu'il y en avait pas mal. Ça s'était terminé sur la place d'Armes, hein, il y a 15 jours.
Oh ben, on était, voilà, toute la fin s'est passée tout autour de la place d'Armes.
Bon, ce coup-ci, est-ce qu'on va s'éloigner un petit peu tout en restant sur Rhodes? Ouais, j'imagine qu'on va peut-être s'éloigner un petit peu. Et je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent que cette première émission est retrouvée en podcast sur le site cfmradio.fr à la rubrique de l'émission Mémoire à Véronèse, hein, pour se remettre dans le fil de ta pensée. Alors, on reprend cette balade avec plaisir. Vincent, on commence par où?
Et déjà, je vais répondre à ta question.
Oui.
On va s'éloigner un tout petit peu de Rhodes, mais c'est une rando mémoire, comme je vous l'ai dit, principalement à Rhodes. La seule chose où on va se déplacer un peu, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on va juste aller à 5 kilomètres de Rhodes,
ouais.
C'est la butte de tir de Saint-Aurat-de-Gonde, donc le lieu où ont été fusillés les 30 otages. Donc c'est vraiment ruthénois, à part donc le lieu de l'exécution qui est juste à côté.
Très bien.
Pour reprendre, nous allons aller au collège Fabre.
Oui,
d'accord. Qui, à l'époque, n'était pas un collège, mais qui était un lycée.
Ah ouais.
Lycée public de jeunes filles.
Ah, oui,
puisque les jeunes garçons se trouvaient à Foch, l'actuelle place Foch. Alors, nous allons aller dans ce lycée Fabre pour retrouver deux sœurs d'origine juive, Janine et Madeleine Blum, qui étaient cachées à cet endroit-là, dans une classe. Elles étaient élèves toutes les deux de la même classe de première. Une avait, je crois que c'est Janine qui avait 17 ans, si je ne me trompe pas, et Madeleine qui avait 15 ans. Elles étaient donc dans une classe de première et elles ont été malheureusement arrêtées en plein cours d'anglais le 23 avril 1944 après avoir été dénoncées, par la directrice elle-même.
Ah bah bravo.
Madame Pietri. Mais ceci explique cela. Madame Pietri était en fait l'épouse du chef de la milice de Rhodes.
Ah, ouais.
Voilà.
Ouais,
donc
ouais.
Dramatique, surtout pour un enseignant d'arriver. On protège ses enfants, on protège ses élèves. Mais bon, quand on est l'épouse du chef de la milice, je pense malheureusement qu'on a des idées bien arrêtées sur le sujet. En tout cas, voilà, quelque chose de vraiment dramatique. Elles ont été déportées, elles ont été en camp de concentration. Janine a eu la chance de survivre au camp de la mort. Et sa sœur Madeleine est morte. Alors, là aussi, c'est vraiment tragique parce que elle est morte, elle, du typhus au camp de Theresienstadt. Le 15 mai 1945.
Ah ouais, une fois donc, l'armistice signé.
Ouais. On pense d'ailleurs très rarement à toutes les personnes qui sont mortes après avoir été libérées.
Ouais.
Et d'ailleurs, quelque chose aussi de tout à fait dramatique, c'est que beaucoup de personnes sont mortes après avoir été libérées, notamment par l'armée américaine ou l'armée russe, parce qu'au départ, qu'est-ce qu'ont fait les soldats américains? Ils sont allés chercher tout ce qu'ils pouvaient trouver en alimentation et ils leur ont donné à manger.
Ouais, oui.
C'est déporté. Avaient des estomacs qui étaient réduits à l'extrême. Ils se sont mis à manger et en fait ils sont morts d'avoir trop mangé. C'est vraiment quelque chose d'affreux. Donc le collège Fabre, où chaque année la mémoire de Janine et Madeleine Blum est honorée, voilà, c'est quelque chose de vraiment important pour les professeurs et les élèves de ce collège maintenant, pour le travail de mémoire, comme vous le savez, qui est vraiment très très cher à très très cher à mon cœur. Nous partons pour le numéro 14, place de la Cité.
Oui.
Place de la Cité, une des trois grandes places de Rhodes. On a vu tout à l'heure la place d'Armes. On va pas voir, parce qu'il n'y a pas eu trop de choses qui se sont passées, la place du Bourg, et donc la troisième place de la Cité, où de temps en temps avaient lieu des fêtes, notamment le 10 et 11 mai 1944. Elle a servi de cadre pour la grande fête de la Sainte Jeanne d'Arc. Grosse fête à cet endroit-là,
ouais.
Fête organisée par le régime de Vichy. Et sur cette place, justement, se trouvait le centre de la propagande de la Révolution nationale.
D'accord, il était vers où sur la place, cet immeuble?
Alors, il est à peu près vers le milieu de la place, mais au 18 du numéro de la place, du côté de l'office de tourisme.
Ah d'accord, ok, très bien.
Voilà, au 18, c'est à peu près vers le milieu. Et alors, il y a des photos qui existent où on voit la Francisque du maréchal Pétain peint sur le mur. Le bâtiment, d'ailleurs, quand on est sur place et qu'on compare avec la photo qui existe d'époque, le bâtiment n'a pas du tout changé. Numéro 15, nous allons place Charles de Gaulle.
Oui,
alors cette place a été...
La place Charles de Gaulle, attends, là, d'un seul coup, tu me fais douter. Elle est où, cette place Charles de Gaulle?
Vas-y, réfléchis.
C'est pas la place de la mairie?
Non, ça c'est Eugène Rinaldi.
Ouais, alors la place... Non, je vois pas la place Charles de Gaulle.
Alors, pas très loin, c'est la place qui se trouve devant la préfecture et devant, et devant l'hôtel du département.
Une mini-place.
Mini-place,
d'accord,
c'est ça.
Oui.
Mini place. Alors pourquoi place Charles de Gaulle? Parce que le général de Gaulle est venu en visite présidentielle, la seule visite présidentielle qu'il a fait en Aveyron, c'était le 21 septembre 1961.
Oui.
Et il s'est arrêté longuement sur cette place-là pour inaugurer la plaque d'un des préfets de l'Aveyron, héros de la résistance, j'ai nommé Jean Moulin.
Eh oui.
Voilà. Donc cette place n'a pas pris le nom de Jean Moulin, mais a pris la place de Charles de Gaulle. Ouais. Jean Moulin, très rapidement, je fais un petit rappel, parce que déjà, beaucoup de personnes oublient ou ne savent pas qu'il a été préfet de l'Aveyron. Curieusement, il a été préfet de l'Aveyron par deux fois. Une première fois du 1er janvier au 11 juin 1937.
Ouais,
très court.
6 mois.
Voilà. Tu m'épates à chaque fois. Qu'est-ce que t'es bon en calcul mental. Oh là là. Je t'admire. Moi, j'en suis incapable. Et la dernière fois, du 1er juin 1938 au 20 février 1939. D'accord. Et après, donc, il est parti pour être préfet d'Eure-et-Loire à Chartres.
Deux fois préfet de l'Aveyron.
Deux fois préfet de l'Aveyron. Ouais, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même relativement important.
Ben oui.
Ensuite, numéro 16, nous allons au bureau de poste.
Bah pareil, dans le centre-ville, pas loin de la radio.
Ah mais toi, des studios là, en 5 minutes, ouais, tu fais déjà je sais pas combien de numéros là. Donc c'est rue Louis Blanc. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'employés, ce qu'on appelait à l'époque les PTT, les postes, télégraphes et téléphones, des gens ont fait la guerre, mais aussi ont fait acte de résistance. Mmh. Quand vous rentrez dans le bureau de poste, alors je vous le dis parce qu'elle est très très discrète, on la voit, faut vraiment avoir l'œil pour la voir. Vous rentrez dans le bureau de poste,
ouais.
Et dès que vous rentrez sur votre droite,
ouais.
En hauteur,
Il
ouais, faut lever les yeux.
D'accord.
Vous avez une plaque commémorative avec le nom de 11 agents,
ouais.
Donc des PTT de Rodez, qui sont morts entre 1939 et 1945. Certains sont morts à la guerre de 39-40 et d'autres sont morts dans la résistance. Ils avaient un rôle très important dans la résistance. Pourquoi ? Parce que déjà, beaucoup de lettres de dénonciation qui étaient reçues par ces employés de la poste ont été détournés, qui devaient être envoyés à la commandanture ou qui devaient être envoyés à la préfecture.
Mmh.
Mon voisin fait du marché noir, mon voisin, c'était la mode à l'époque, fait de la résistance, mon voisin est un juif. Voilà, beaucoup de pas toutes malheureusement, mais beaucoup ont réussi à être extirpés de leur destination finale pour revenir à la résistance. Donc ça, c'était important. Et également, le téléphone. Le téléphone à l'époque, on l'oublie, mais c'est il y avait une standardiste.
Oui,
madame,
oui,
donnez-moi le c'est quoi le sketch le 22 à Agnières, je crois,
Agnières,
ouais, c'est ça.
Ouais.
Et elles avaient ces dames du téléphone, elles avaient un casque sur les oreilles, un peu comme toi aujourd'hui, et elles pouvaient également écouter les conversations parce qu'elles mettaient en lien, tu sais, elles débranchaient une prise pour brancher à un autre endroit, et elles apprenaient également beaucoup de choses qu'elles pouvaient reporter après à la résistance. C'était vraiment très très intéressant pour la résistance. Place Foch.
Oui.
Encore, pas très loin. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps de faire tout ça avec les explications dans Rodez, mais c'est vraiment tout est relativement proche. Place Foch, il y a plusieurs plaques.
Ouais.
Sur cette place, notamment la place du préfet de l'Aveyron qui s'appelait Louis Dupuech, qui a été arrêté le 14 mai 1944 pour fait de résistance.
Ah d'accord.
C'est, je crois que c'est le seul préfet de France, si je me trompe pas, à être mort en déportation alors qu'il était en fonction. Je viens de parler de la poste où les postiers ou les dames du téléphone pouvaient justement donner des lettres ou dire ce qu'elles avaient entendu par le téléphone à la résistance. Et ce préfet, notamment, faisait exactement la même chose dès qu'il était au courant. Préfet, c'est le responsable de l'État, pour le département.
Le représentant de l'État.
Le représentant de l'État pour le département. Donc, dès qu'il était au courant, la police, la milice, la gendarmerie, l'armée allemande, je suis pas sûr, quoique... Des fois, il y avait des opérations conjointes entre les Allemands et les troupes françaises de sécurité. quand il était au courant de quelque chose, on va aller attaquer tel maquis à tel endroit, eh bien, lui allait le reporter tout de suite à la résistance. Malheureusement, il s'est fait coincer, il s'est fait déporter, et lui va mourir en déportation. Alors, il va mourir d'une manière vraiment, vraiment particulière, vraiment vicieuse. Son camp va être, je ne sais plus dans quel camp il était, Nuengam, pardon, va être vidé. Il va y avoir, à la fin de la guerre, il y a beaucoup de marches comme ça, qu'on appelle les marches de la mort, où on transfère les prisonniers à pied sur des centaines et des centaines de kilomètres. Il va être amené en mer, sur un bateau allemand, un bateau de guerre allemand, et en fait, c'est les Alliés. Il va être tué par les Alliés, que les Alliés, c'est quand même quelque chose de vicieux, vont bombarder, vont couler ce fameux bateau. En fait, il était rempli, il le savait pas, rempli de prisonniers, rempli de déportés, et il va mourir comme ça le 3 mai 1945. Donc lui aussi, quelques jours à peine avant la libération. Mm-hmm. Également, une autre plaque sur la rafle du 26 août 1942, où furent arrêtés en Aveyron 148 juifs, dont 37 enfants, dans tout le département, sur ordre du gouvernement de Vichy. Et il y a une troisième plaque, cette dernière plaque, en fait, rend hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité commis sous l'autorité du régime de Vichy entre 1940 et 1944. D'accord. Donc, sur cette place Foch, et surtout à poser des plaques en lien justement avec la déportation, que ça soit la déportation donc de ces juifs arrêtés en Aveyron, ou du préfet Louis Dupuech, qui lui a été arrêté pour fait de résistance et lui aussi envoyé en déportation. Un lieu d'ailleurs, je sais plus quel jour, à la fin du mois d'avril, où auront lieu les commémorations à cet endroit-là.
D'accord.
Numéro 18, nous allons à l'angle du boulevard Galli et du boulevard de Guizard. Actuellement, dans ce bâtiment se trouve la droguerie Joie.
Oui, très bien.
Tu vois, juste à côté du palais de justice. Oui. En fait, à cet endroit-là se trouvait le siège de l'office de placement allemand.
Ah, ils plaçaient quoi les Allemands là ?
Des travailleurs.
Ah oui, d'accord. Ah bah oui, il y en avait quelques-uns sous la
main. Mais oui, parce que il y a le service du travail obligatoire. Il y a le STO. Comme son nom l'indique, c'est obligatoire. Mais avant que ce service du travail obligatoire se mette en place, les Allemands avaient essayé de faire de la pub pour dans tous les pays
occupés un accès,
mais pas obligatoire. Voilà. Mais vous êtes au chômage, vous ne trouvez pas de travail, vous n'êtes pas considéré par vos patrons. Venez en Allemagne, tu vois, la publicité mensongère, c'est vieux déjà. Venez en Allemagne, vous serez bien traité, on vous apprendra un métier, vous serez bien payé, etc., etc. Vous aurez tous les bombardiers alliés qui vous déverseront des flots de bombes sur vous, ça ils le disaient pas. Ça a pas trop bien marché.
Ouais.
On se demande bien pourquoi. Et donc ils ont maintenu quand même l'office de placement allemand, mais c'est là qu'ils ont mis en place le STO.
Le STO.
J'ai connu un résistant du maquis Jean-Pierre qui était enfant, qui était adolescent, qui était élève à l'école normale pendant la guerre, avant de partir au maquis et tout à fait à la libération. Et une nuit, il me racontait, c'est rigolo parce que plus de 70 ans après, il le vivait encore en le racontant. Ils ont fait le mur de l'internat de l'école normale en volant la clé aux surveillants qui dormaient, enfin c'est un peu rocambolesque. Ils sont partis en pleine nuit, ils ont traversé donc le boulevard pour aller jusqu'à cet endroit-là pour lancer un énorme pavé dans la vitrine de l'office de placement allemand. Alors en pleine nuit, surtout qu'il y avait le couvre-feu et les patrouilles, je te dis pas le bruit qu'a dû faire la grande vitrine de l'office de placement allemand. Nous traversons la rue.
Ouais.
Et nous allons au numéro 19, enfin numéro 19 de notre histoire, hein, c'est pas, ne cherchez pas numéro 19 sur le bâtiment, nous allons juste en face au palais de justice.
Oui.
Le 26 avril 1941, une énorme fête va avoir lieu à Rodez. Je vous ai parlé de la Légion française des combattants, qui au début était favorable au régime de Vichy. Donc là, c'est pour ça beaucoup beaucoup de monde s'est rassemblé là, à cet endroit-là, pour accueillir le général Lord, qui était le secrétaire général du cabinet du maréchal Pétain, et qui était également le secrétaire général en France, de la Légion française des combattants.
D'accord.
Pétain ne viendra jamais en Aveyron, c'est juste son représentant, ouais, le général Laure, ouais, qui va venir. Alors là, immense fête, beaucoup de gens. On retrouve beaucoup de photos du côté des colonnes, hein, le plus beau côté du palais de justice de Rodez, avec un immense portrait gigantesque du maréchal Pétain tendu entre les colonnes. Donc voilà pour cette grande fête. Numéro 20, nous commençons à nous éloigner un petit peu du centre-ville pour nous diriger un petit peu vers Sainte-Radegonde. D'abord le monastère et Sainte-Radegonde. Le numéro 20, c'est l'institution Saint-Joseph.
Oui.
Qui existe toujours.
Oui.
C'est une école des frères des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, créée en 1859 à Rodez. Pendant la guerre de 14, il va abriter des hôpitaux complémentaires qui se trouvaient à Rodez et dans l'Aveyron. Il y en avait à peu près une trentaine à l'époque. C'était très pratique. Il y avait un internat qui était relativement grand. Il y avait beaucoup d'internes à l'époque dans les établissements scolaires. Donc il y avait beaucoup de lits. Donc pendant la guerre de 14, il a accueilli l'hôpital complémentaire numéro 30, et les Allemands ont eu la même idée, puisque en novembre 42, quand ils sont arrivés à Rodez, et jusqu'à au mois d'août 44, ils vont y installer leur infirmerie.
Ok. Voilà. Encore.
Très beau bâtiment. Mmh. On sent toute l'ancienneté des pierres quand on passe. C'est vraiment un joli lieu. J'en parle toujours avec émotion. Je suis un ancien élève de Saint-Jean. Ah. je peux pas faire autrement. Donc pour le numéro 21, nous partons rue Grandet. Rue Grandet, c'est un lieu qui est vraiment, vraiment triste, un triste lieu de mémoire. Se trouvait à cet endroit-là le CIPO SD. Mmh. Alors, on dit souvent que c'est la maison de la Gestapo. Mmh. La Gestapo, comme disent les anciens Aveyronnais. C'est pas vraiment la Gestapo. La Gestapo, c'est la police secrète du Reich, mais côté police. Là, c'est le CIPO SD. C'est exactement la même chose. C'est la police secrète, mais qui dépend de la SS. C'est pas vraiment pareil. Déjà que la Gestapo, c'était pas terrible.
Non.
Alors là, dépendant de la SS, ouais, je te laisse imaginer un petit peu.
Ouais.
Le CIPO SD était à Montpellier, et ils envoient une petite délégation à Rodez en mars 1943. La maison est en cours de finition.
Mmh.
La maison est terminée. L'aménagement intérieur n'est pas terminé. Ils veulent vraiment se mettre à cet endroit-là. Ils somment la municipalité de Rodez de terminer les travaux le plus rapidement possible à leurs frais. Et provisoirement, ils vont aller dans les locaux de l'école de musique qui était tout près de ce qu'on appelait autrefois la maison des illustres, en haut de la rue Saint-Cyris, à peu près sur l'emplacement de la MJC de Rodez.
Mmh.
En avril 43, ils déménagent, donc pour arriver à cette fameuse maison du 23 rue Grandet. Donc les agents du CIPO SD, ce qu'on appelle vulgairement le SD, se trouvaient là. Le plus connu, qu'on appelait le Grand Luc, s'appelait Arthur Finman. Le Grand Luc, parce qu'il était très fin et très grand. C'est vraiment le personnage le plus sombre et le plus connu de Rodez pendant l'occupation allemande. Il était interprète et il parlait très très bien le français. Et également Herbert Bodger, qui était vraiment les deux responsables de ce SD. Tous les résistants, tous les gens soupçonnés vont être conduits et torturés dans cette maison. Au sous-sol, il se trouvait ce qu'on appelait vulgairement la baignoire, pour justement la torture de la baignoire. En fait, c'était une cuve en béton, c'était un lavoir. Certaines personnes avaient leur propre lavoir chez eux. C'était de grands bacs en béton, et c'est là où les résistants, donc tu sais, on simule la noyade pour que les gens s'étouffent et voilà, ils parlent à ce moment-là. Donc vraiment une maison de triste mémoire. Trois résistants vont mourir en ce lieu. Alfred Merle, qui est un des premiers responsables de la résistance en Aveyron, qui est le responsable du mouvement Combat, qui mourra des suites de la torture. Martial Pleine-Cassagne, également résistant, qui mourra lui aussi des suites de la torture. Et un envoyé de Londres qui s'appelait Paul Olivier, nom de code Paul Clay. Tu sais qu'à l'époque, on avait dans la résistance des pseudonymes pour éviter d'être reconnu, que la famille soit inquiétée, etc. Lui ne va pas mourir des suites de torture. Lui, comme tout envoyé de Londres, avait des petites capsules, tu sais, de cyanure cachées. Lui va se suicider justement de peur de craquer à la torture et de pouvoir livrer des secrets.
D'accord.
Donc maison de triste mémoire. Ouais. La randomémoire à proprement parler s'arrête donc au numéro 21. Nous allons continuer jusqu'au numéro 22. Donc numéro 22, nous sommes à Sainte-Radegonde, sur le plateau qui a pris le nom de la cible de tir.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, parce que en fait, tu vois un petit peu la configuration de Sainte-Radegonde,
ah,
tu
oui,
es déjà allé.
Oui, oui, oui.
Il y a une espèce de butte, grande butte avec une tranchée devant et le monument qui se trouve à côté. En fait, cet endroit était un terrain militaire. La tranchée ont été créées, si je me trompe pas, en 1874. Il y a une pierre quand vous rentrez dans la tranchée, pas côté du monument, mais de l'autre côté. Vous rentrez, il y a une très grande pierre de taille sculptée. Il faut vraiment avoir l'œil parce qu'elle commence à s'effacer. Avec la date, 81e régiment d'infanterie de ligne de gravé dessus. C'est eux qui ont créé cet endroit-là. Et regravé par-dessus, c'est rigolo, 122e régiment d'infanterie de ligne, quand le 122 a pris la place en 1907. Donc, il y avait la tranchée, en fait, c'était une tranchée de service pour les cibles qui étaient, les cibles de tir qui étaient exposées devant. Et en fait, cette butte de tir servait uniquement à arrêter les balles perdues.
Eh oui.
Alors, moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup et mon père m'y amenait beaucoup quand j'étais enfant et on s'amusait à s'en creuser, il n'y a pas besoin, on s'amusait à passer de longs moments la tête baissée à chercher des balles des balles perdues alors, on ne trouve pas de balles allemandes mais de l'exécution, quoi qu'on pourrait. C'est généralement c'est des balles de fusil Lebel justement de ces deux régiments aveyronnais qui ont été perdus lors des exercices. Donc c'est là que vont être fusillés le 17 août 44 les 30 otages jetés dans la tranchée de tir. N'hésitez pas à aller sur internet, vous avez un court-métrage qui a été fait. Moi j'y ai participé en tant que conseiller technique et puis aussi historique pour trouver aussi les lieux etc. et aider pour l'histoire. Il y a un court métrage, c'est le 17 août à 17h, qui reprend justement l'exécution de ces otages. Allez voir, c'est vraiment un très très bel hommage qui a été rendu à ces fusillés de Sainte-Radegonde. En 1946 a été créé un mémorial juste à côté. Moi je fais partie du comité du mémorial de Sainte-Radegonde. Les Aveyronnais et les Ruthénois savent que malheureusement il y a des soucis de conservation. Il y a un petit toit en tôle qui a été mis pour au-dessus des gisants. Il y a deux résistants justement en gisant qui ont été sculptés, attachés l'un à l'autre avec du câble électrique, qui se dégradent, qui s'abîment. Le comité du mémorial de Sainte-Radegonde et la commune de Sainte-Radegonde, j'en profite pour lancer un appel, cherchent à récupérer depuis quelques années des dons d'argent pour pouvoir restaurer ces gisants et ce mémorial. Donc voilà, si vous avez quelques euros, il n'y a pas de petits ou de grands dons, chaque don est important. N'hésitez pas à l'envoyer à la mairie de Sainte-Radegonde. C'est un monument important. Ce n'est pas le monument des fusillés de Sainte-Radegonde, mais c'est le monument départemental pour tous les morts de la barbarie nazie en Aveyron. Que ça soit les résistants, que ça soit les otages, que ça soit les civils qui ont été fusillés, que ça soit également les juifs qui sont morts en déportation, ce monument l'aurait consacré. On y va certains 8 mai cette année, justement on y retourne, et également donc la grande cérémonie, c'est la cérémonie du 17 août. Il y a tout un parcours qui a été aménagé, également un petit monument qui a été entre la butte et le monument, qui a été érigé il y a quelques années, commémorant les justes parmi les nations de l'Aveyron qui ont participé à justement sauver des juifs d'une arrestation et d'une mort certaine.
Et c'est là que se termine pour nous cette balade ruthénoise sur les lieux de l'occupation, de la collaboration et de la libération. Deux émissions, Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rhodes pour faire le tour de ces 22 lieux. Merci beaucoup Vincent, on se baladera maintenant dans Rhodes avec un regard un petit peu différent et les yeux peut-être plus en l'air.
Oui, il faut pas hésiter à regarder, on perd beaucoup de choses.
On se retrouve dans 15 jours, j'espère bien.
Pourquoi pas, allez.
Pour un nouveau numéro, tu connais un petit peu le sujet, la thématique?
Oui, le sujet, ça sera via la...
Le président?
Non, le général. Et maire. Général d'Empire et maire de Rodez.
Ah d'accord, général d'Empire, donc tout ça nous ramène lequel empire?
Premier,
d'accord. Début du
19e. En général, quand on dit, alors en général, je suis pas bon à partir. Ouais. En général, quand on dit l'empire,
ouais, y en a eu qu'un.
C'est le premier empire. Sinon, on dit le second empire.
T'as raison, c'est vrai. Bon, merci encore Vincent pour tout ce savoir partagé avec nous sur CFM.
Merci à toi.
Rendez-vous dans 15 jours.
Oui, avec plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.